Bienvenue à vous pour cette avant-dernière étude biblique de l'été. Pour aujourd'hui, évoquer la rencontre de Salomon et de la reine de Saba, cette visite rendue par cette femme mythique à ce non moins mythique roi Salomon. Voilà, je vais peut-être d'abord vous lire le chapitre dans son intégralité pour que nous l'entendions. La reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon pour le nom du Seigneur, et elle vint le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très importante, des chameaux portant des essences odoriférantes, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle vint trouver Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait. Il n'y avait rien de caché que le roi ne pût lui expliquer. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, les messes de sa table, l'habitation des gens de sa cour, la fonction de ses auxiliaires et leurs vêtements, ses échansons et les holocaustes qu'il offrait dans la maison du Seigneur. Elle en eut le souffle coupé. Elle dit alors au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de tes paroles et de ta sagesse. Je n'y croyais pas avant d'être venu et de l'avoir vu de mes yeux, et on ne m'en avait pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que ta réputation ne me l'avait laissé entendre. Heureux tes hommes, heureux tes gens qui se tiennent constamment à ton service et qui entendent ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu qui a pris plaisir en toi et t'a placé sur le trône d'Israël. Parce que le Seigneur aime Israël pour toujours, il t'a fait roi pour que tu agisses selon l'équité et la justice. » Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'essences odoriférantes et des pierres précieuses. Il n'arriva plus autant d'essences odoriférantes que celle de la reine de Saba donna au roi Salomon. Les bateaux de Hiram, qui apportèrent de l'or d'Ophir, amenèrent au sir d'Ophir une très grande quantité de bois et de santal et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal une balustrade pour la maison du Seigneur et pour la maison du roi, ainsi que des lyres et des luttes pour les chantres. Il n'arriva plus pareil bois de santal, on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle souhaita demander et lui fit bien d'autres présents, comme seul pouvait en faire le roi Salomon. Puis elle s'en retourna dans son pays, elle et les gens de sa cour. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 670 talents d'or, outre ce qui provenait des prospecteurs et du commerce des marchands, ainsi que de tous les rois des populations mêlées et des gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 600 sicles d'or et 300 petits boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 3 mines d'or. Le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or fin. Ce trône avait 6 marches et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège, 2 lions debout à côté des bras et 12 lions debout sur les 6 marches de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Tout le service à boisson du roi Salomon était d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or fin. On n'en faisait aucun cas au jour de Salomon. Car le roi avait en mer des bateaux de Tarsis avec les bateaux de Hiram. Tous les 3 ans arrivaient les bateaux de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, par sa richesse et par sa sagesse. Toute la terre recherchait Salomon pour entendre sa sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des essences odoriférantes, des chevaux et des mulets. Il en était ainsi chaque année. Salomon rassembla des chars et des équipages. Il avait 1400 chars et 12 000 équipages qu'il conduisit dans des villes de garnison et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, il rendit les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui sont dans le bas pays. On amenait les chevaux pour Salomon d'Égypte et de Kévé. Les marchands du roi allaient les acheter à Kévé. un char monté d'Égypte pour 600 sicles d'argent et un cheval pour 150 sicles. Ils en amenaient aussi avec eux pour tous les rois des Hittites et pour les rois d'Aram. Voilà ce chapitre, premier livre des rois, le chapitre 10 dans son intégralité, même si on va surtout s'intéresser aux 13 premiers versets. Mais avant qu'on passe plus avant dans l'échange, je vous propose, comme à l'habitude, un tour de table pour que vous fassiez état de vos réflexions, de vos interrogations, de vos découvertes aussi de ce texte, la manière dont finalement vous réagissez à cette lecture.
Il n'est peut-être pas tellement religieux, enfin, c'est une question religieuse. Il y a aussi des livres comme le premier livre des Chroniques, juste après, où il n'y a pas mention de religion, il y a un profil d'intérêt historique. C'est un livre où il y a l'origine des tribus juives. Mais...
Et surtout après le chapitre 11, il a eu je ne sais pas combien de milliers de femmes, d'épouses.
Donc vous êtes sensible à l'éthique, hein, la question morale. Et
enfin, morale, oui, enfin, bon, je sais qu'il n'avait pas toujours raison, puisque après il avait été loué l'idolâtrie, enfin, l'histoire de Roulieu, oui. Et tout ça. Et que lui aussi, il avait eu à la fin des avertissements de l'Éternel que ça allait donner après ce règne de son fils le schisme des dix tribus du Nord.
Il est quand même question de religion, parce qu'il y a finalement beaucoup de questions du temple hein, dans ce texte. Et quand même le temple a un petit peu quelque chose à voir avec la religion.
Il est beaucoup question de sagesse, mais on parle de sagesse au sens plus intellectuel, parce qu'il s'agit d'énigmes, plutôt qu'au sens qu'on donnerait aujourd'hui à la sagesse mentale.
Si je pense à la
sagesse philosophique.
Hein, oui.
Peut-être. Que veut dire le mot sagesse dans ce cas-là?
Voilà.
Dans le même sens, enfin, le verset 24, toute la terre recherchait Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Je me demande si Dieu, cette sagesse y était déjà, ou c'est Salomon qui au départ l'avait reçue, parce qu'il n'y avait pas une vie exemplaire déjà. Voilà, donc je suis interrogée par la sagesse.
Même la reine de Saba est impressionnée.
Oui. Oui, tout à fait. Donc la question de la sagesse, en effet, elle est centrale dans ce chapitre, hein, puisque il y a une sagesse en Israël, et en effet, on pourra revenir sur ce qu'il faut entendre par sagesse. Hein. Il y a une sagesse en Israël. La sagesse n'est pas l'apanage d'Israël. Il y a d'autres sagesses dans le monde antique, sagesse des Égyptiens, sagesse des nations qui entourent Israël. Et on voit ici la rencontre de deux sagesses, la sagesse d'Israël personnifiée dans Salomon, hein, qui est la figure par excellence de la sagesse dans la perspective biblique, et finalement la sagesse des nations. Hein. Les nations, elles aussi, ont accès à la sagesse, sagesse des nations qui ici est personnifiée dans la reine de Saba. Et ce sont ces deux sagesses qui se rencontrent. Dialogue de deux cultures, dialogue de deux sagesses. Alors avec en effet ce problème que la définition de la sagesse dans une perspective ancienne, hein, des cultures de l'Antiquité et de la Bible, c'est qu'il faut qu'on se mette d'accord sur ce mot, qu'est-ce que c'est que la sagesse, qui tient par ailleurs une place considérable dans la Bible, puisqu'il y a beaucoup d'écrits de sagesse. Et que le sage et est une des figures majeures de la Bible, à côté du roi, du prophète, du prêtre. Il y a aussi le sage. Et ici, nous avons la conjonction entre la figure de la royauté et la figure de la sagesse.
Quel est le rapport entre la sagesse et la sainteté? Est-ce que sur le plan du vocabulaire en hébreu, il y a une similitude?
La sainteté, c'est l'absolue séparation, qui est attribuée à Dieu. Dieu est saint, ce qui signifie qu'il est absolument tout autre que la créature. La sagesse, c'est plutôt l'art de bien mener sa vie, l'art de vivre harmonieusement, en accord avec des principes. C'est l'art de bien se guider, et que la sagesse, elle relève de l'expérience mondaine, de l'expérience, j'allais dire, laïque. Il n'y a pas immédiatement un lien entre sagesse et sainteté. Surtout que, finalement, dans l'Ancien Testament, la sainteté, elle relève de catégories rituelles, de pureté, de séparation avec le monde. Il n'y a pas une connotation morale ou éthique.
Oui, vous dites qu'il n'y a pas immédiatement un lien avec la sainteté. Et là, toujours dans le verset 24, que Dieu avait mis dans son cœur. Alors,
Oui.
C'est un très lié à l'accueil de cette sagesse.
C'est un. Oui.
Comment interpréter ça?
Allez, je pense que dans la mentalité d'Israël, il y a cette conviction que la sagesse, elle relève d'un don de Dieu. Israël a beaucoup emprunté à toutes les cultures qui l'environnent, ce qui est évident. Et donc, Israël est redevable des sagesses d'Égypte, des sagesses de Mésopotamie. Mais tout cela est relu de manière théologique, et il y a la conviction que cette sagesse, elle n'est pas simplement une œuvre humaine, mais qu'elle est aussi donnée par Dieu, qu'elle est le fruit d'une illumination divine. Et là, ça nous amènerait à réfléchir sur la part entre ce qui est de l'activité de l'homme dans l'acquisition de la sagesse et ce qui est du don de Dieu, ce qui est une problématique, j'allais dire, classique en théologie.
Qu'est-ce que ça signifie?
Pardon?
Mise à l'épreuve par des ennemis, dans quel sens?
Voilà. Alors, c'est la traduction d'un mot hébreu, qui veut machal, le machal, qui est souvent traduit dans nos Bibles par proverbe. Le livre des proverbes, c'est le livre des machal. Alors, l'énigme, c'est justement ce qui, si on voulait en donner une définition très simple, c'est ce qui donne à penser. Ce qui donne à penser. Quelque chose qu'on va retrouver d'ailleurs dans le terme parabole. Les paraboles sont aussi des énigmes, des machals. Ce sont des, sous forme d'historiettes, des anecdotes qui sont destinées à faire réfléchir, à nous donner à penser. Ne plus prendre comme des évidences ce qui nous paraît absolument évident. Et c'est peut-être là qu'il y a le commencement de la sagesse. Le départ de la sagesse, c'est justement d'entamer une réflexion sur les choses et sur les êtres. Voilà, prendre un peu, en effet, comme vous suggérez, prendre un peu de distance et prendre comme non évident quelque chose qui nous paraît évident. Et donc les énigmes, voilà, c'est. C'est la manière dont on va réfléchir sur la sagesse. Voilà.
Ça a une connotation avec les apophtègmes des pères du désert.
Bien, il y a souvent, en effet, chez les pères du désert, des petites histoires, ou des apophtègmes, comme vous le rappelez, des aphorismes qui sont là qui sont porteurs d'une leçon, mais qu'il faut un peu décortiquer pour en saisir tout le fruit. Hein, par exemple, quand l'histoire classique du père du désert qui demande à son disciple d'aller arroser un bâton. Voilà, hein. Et puis, le bâton, finalement, fleurit. Bon, machal, petite énigme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, finalement, c'est une illustration de l'idée d'obéissance. Voilà. Le disciple qui est à l'écoute du maître, il doit, pour accéder à un chemin de sagesse, il doit se mettre à l'écoute du maître et suivre tous ses enseignements, aussi aberrant l'enseignement du maître puisse-t-il lui paraître. Voilà, il a reçu l'ordre d'aller arroser un bâton, ce qui nous paraît aller contre le bon sens, hein, et finalement, il s'aperçoit, oui, que le bâton porte une fleur, porte un fruit. Voilà, là, c'est un bon exemple de, en effet, il y a une sagesse aussi des pères du désert, hein, qui se dit à travers souvent ces petites anecdotes savoureuses, ces formules, hein, et on retrouve le genre littéraire du proverbe, très bien frappé, parfois énigmatique, hein, car on s'aperçoit bien, ne serait-ce que quand on lit, par exemple, le livre des Proverbes dans l'Ancien Testament, que ces réflexions ne vont pas de soi immédiatement, qu'elles demandent de nous, voilà, un temps d'arrêt et puis un temps d'approfondissement. Voilà. L'énigme, c'est ce qui résiste, ce qu'on doit un peu casser l'écorce pour parvenir au cœur. Hein. Et le voyage de la reine de Saba, précisément, il est motivé par ce désir des nations, d'une païenne, hein, d'une reine, d'avoir accès à la sagesse d'Israël. Hein. Parce que, comme je rappelle, je pense que le fil rouge, il est là, c'est ce dialogue entre deux sagesses. Une sagesse d'Israël, qui est une sagesse finalement qui se dit révélée, une sagesse inspirée par Dieu, et la sagesse des nations. Hein. Et finalement, qui l'emporte des deux? Je pense que cette question, elle est là dans ce texte. Alors, la réponse, d'une certaine manière, elle nous est donnée, en effet, parce que c'est la reine de Saba qui va s'incliner devant la sagesse de Salomon. Hein, c'est un texte qui porte l'idéologie biblique, hein, qui affirme.
Est-ce qu'il y a comme la tradition éthiopienne dans laquelle l'arche va arriver en Éthiopie, où elle est toujours, oui, aujourd'hui? Donc à ce moment-là, la sagesse va bien à Saba.
Oui, oui. Alors,
Je veux dire, c'est pas la vie de tout le monde.
Oui, enfin, il faut bien voir que la tradition éthiopienne, son témoignage littéraire, c'est le XIVe siècle. Hein. Voilà. C'est très tardif. Bon, la mise par écrit de la légende éthiopienne de la reine de Saba, elle est médiévale. Donc c'est une relecture, hein, portée dans l'histoire de l'Éthiopie chrétienne, de la rencontre de la reine de Saba et du roi Salomon. Hein, donc,
si on parle d'époque, moi je me demande toujours s'il y avait une vie hermétique avant le début de nos frères. Donc ici, on est quand même au moins 5 siècles avant les pères du désert dont vous parliez. Est-ce qu'il y avait une vie hérémitique, du moins dans la zone méditerranéenne, avant le christianisme?
On a l'attestation des Esséniens.
Hein. Oui, mais c'est quand même très, très...
Oui.
Salomon, c'est récent.
Oui, c'est récent. Les thérapeutes évoqués par Philon d'Alexandrie, c'est aussi le premier siècle qui précède l'ère chrétienne. Mais on a aussi dans la Bible, dans les livres des rois, l'évocation d'Élie. Élie qui est bien, par excellence, une figure désertique. Oui.
Ah,
oui. Oui, il se réfugie au torrent de Kérit. Ah, mais alors, la question de l'origine de l'érémitisme, elle mérite d'être posée. L'érémitisme chrétien qui se met en place au IVe siècle, qu'est-ce qui le provoque? C'est la persécution, dit-on. C'est la persécution des chrétiens, les persécutions de Dèce, de Dioclétien, qui poussent un certain nombre de chrétiens, en particulier en Égypte, à fuir au désert, hein, pour se réfugier et pour pouvoir vivre leur foi. Et c'est le début, c'est la cause de la vie monastique. Hein. Mais il y avait peut-être d'autres cause de l'érémitisme, peut-être. On a fait remarquer que en Égypte, bien avant le christianisme, il y a une tradition de fuite au désert, hein, chez les paysans. Pourquoi? Parce que c'est la terre en Égypte, elle est débasiliquée, elle est propriété royale, et il arrive que des fellahs, des paysans, en aient assez de cultiver la terre pour le roi. Alors, ils prennent, non pas le, prennent le maquis, hein, ils prennent le désert, ils fuient. Ils vont vivre comme des anachorètes. Et c'est pas exclu, hein, que l'érémitisme chrétien, il s'inscrive dans cette tradition de fuite au désert.
Je pense que c'est dû vraiment au lieu, parce que les gens sortaient de la ville.
Oui, mais oui, de la ville.
Hein. Pas fait dans la campagne, non, je pense pas. Beaucoup moins.
Ah ben parce que le désert, c'est le lieu de, c'est le lieu de refuge, c'est le lieu de refuge où on est à l'abri, on est à l'abri des poursuites.
Mais pas des voleurs, pas des
mmh. Oui.
C'est quand même un lieu hors ville.
C'est un lieu hors ville.
Donc pas de règle.
Sinon celle que l'on veut bien, que l'on veut bien se donner, mmh. Parce qu'en effet, le paradoxe de ces, de cette vie monastique. De cette vie érémitique, c'est le, une mise à l'écart pour entrer dans un processus où il y a beaucoup de règles.
Oui, les prophètes sont dans le désert pour que Dieu parle à leur cœur.
Oui, le désert est un lieu de rencontre avec Dieu. Mais ici, on est dans le cas de figure d'une rencontre dans un palais royal. Alors, je reprends quelques éléments. Oula, quelqu'un l'a fait remarquer, hein, nous avons ici, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme. C'est un homme couvert de femmes. Salomon. Donc il y a beaucoup de lectures qui sont des lectures érotiques de la rencontre de Salomon et de la reine de Saba. Tout au long du règne de Salomon, il y a une pléthore de créatures féminines, un harem, la fille de Pharaon aussi, on en parlait tout à l'heure, qu'il épousera par calcul politique, des femmes qui ont en partage d'être anonymes, hein, dont on ignore le nom, parce que le seul nom finalement de femme que l'on connaisse dans l'entourage de Salomon, c'est sa mère, c'est Bethsabée, hein, c'est la seule femme qui soit nommée. Des femmes d'ailleurs qui inclinent le cœur du roi Salomon vers l'idolâtrie à la fin de sa vie. Et de toutes ces femmes, sort du lot en quelque sorte, mais elle est anonyme elle aussi, la reine de Saba. Et d'ailleurs sa visite, elle est en quelque sorte un point culminant du récit, avant la déchéance du héros, Salomon qui va vieillir et qui va tomber dans l'idolâtrie. D'ailleurs, ce qui serait aussi une invitation pour nous à réfléchir sur cette sagesse. Hein. Qu'en est-il de cette sagesse de Salomon qui finit dans l'idolâtrie, qui finit par aller adorer les divinités de ses épouses, hein. Était-il aussi sage que le prétend la chronique, hein. Donc Salomon, on nous dit dans ce récit du premier livre des Rois qu'il a construit, qu'il a consacré la maison de l'Éternel, qu'il a organisé son royaume, qu'il a été aidé dans cette tâche de construction par Hiram, le roi de Tyr, une autre figure royale. Et c'est d'ailleurs dans le sillage de l'or d'Ophir, qui a été ramené par les marins de Salomon et de Hiram, que le récit introduit la visite de la reine de Saba. Donc, la reine de Saba entendit parler de Salomon à propos du nom du Seigneur, et elle vient l'éprouver par des énigmes. Donc, on a déjà évoqué ce mot de machal, donc d'énigme, de proverbe, de comparaison, hein, ça veut dire aussi comparaison, ça veut dire comparer, et puis avec une dimension aussi d'épreuve. Et la reine de Saba vient pour mettre Salomon à l'épreuve. Ce qui mérite d'être remarqué, puisque jusqu'à présent, personne n'a mis Salomon à l'épreuve, sinon le Seigneur, sinon Dieu, au début du règne de Salomon, demande, que veux-tu que je te donne. Donc, il y avait une première mise à l'épreuve. Hein. Et Salomon, qui était déjà sans doute sage, devant cette épreuve, devant cette énigme, devant ce machal, avait répondu avec sagesse, puisque il n'avait demandé à Dieu rien d'autre précisément que la sagesse. Donc je vous renvoie premier livre des rois, chapitre 5, hein, c'est une très belle réflexion sur la sagesse de Salomon. Peut-être dire aussi hein, que dans la perspective biblique, la sagesse, c'est aussi la connaissance. Hein. Être sage, c'est posséder un savoir, et pas simplement un art de vivre. Hein. Le sage, c'est aussi le savant. La sagesse, c'est d'abord l'apanage des scribes, de ceux qui savent écrire, de ceux qui ont accès à la connaissance, qui possèdent le savoir, et qui, à partir de ce savoir, de cette culture, peuvent élaborer une réflexion, afin de pouvoir ultimement mener une action. Les scribes, ce sont dans ces civilisations de l'Orient ancien, finalement, ce sont les hauts fonctionnaires de l'époque, ce sont les énarques, ceux qui ont un capital culturel considérable, qui sont capables de mener leur vie et qui sont aussi capables de mener les affaires de l'État. Hein. Donc, et on voit bien que pour ça, il faut à la fois de la science et de la conscience. Science et conscience. Connaître le vrai pour pouvoir choisir le bien et agir de manière juste. Et voilà, la sagesse, elle est une réalité extrêmement, extrêmement complexe. Elle est sans doute plus vaste que ce que nous entendons, nous, simplement par sagesse, quand on parle de sagesse orientale, qui est un processus de un chemin. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur ce processus? Oui, détachement, mais par rapport à quoi hein? Donc la sagesse ici, c'est pas simple dans la perspective biblique, c'est pas simplement un art de se mettre en retrait du monde pour aller à entrer dans un processus de découverte intérieure, d'enrichissement personnel, ou de culture du moi, ou de développement. C'est au contraire quelque chose de très intramondain, c'est l'art de gouverner, c'est l'art de se gouverner, de gouverner les autres. Et c'est pour ça qu'il y a cette dimension de sagesse accordée à un homme. Voilà. Salomon, c'est à la fois le roi et le sage, parce que le roi doit être un sage pour pouvoir bien gouverner. Et en tout cas...
Ça me fait penser à un parallèle avec la Chine ancienne. Les lettrés étaient recrutés d'office pour le service de l'État, et s'ils refusaient, ils étaient condamnés à mort. Mmh. C'est-à-dire que le lettré est la référence parce qu'il détient la connaissance.
Tout à fait.
Et donc la sagesse ici, c'est en même temps une somme de connaissances.
Mmh. Oui. Tout à fait d'accord avec vous. Là, on est dans des archétypes assez universels, finalement. Que ça soit le monde de la Bible, que ça soit d'autres civilisations comme celle de la Chine. En effet, le lettré est un sage, il a la connaissance et il a...
Mais peut-être que c'est un peu abusif de lui attribuer la sagesse. Il a l'accès à une littérature qui est spécifique à une caste. Mmh. Et qui n'est pas diffusé dans tout le pays.
Mais peut-être qu'il est difficile d'attribuer le titre de sage à quelque homme que ce soit. Hein. Parce que autant on peut posséder la culture, la connaissance, être un lettré, autant la possession de la sagesse s'avère beaucoup plus aléatoire et qu'elle peut toujours être remise en question. Voilà, on peut être tout à fait lettré, posséder de la sagesse et quand même se tromper, mettre à côté de la cible, mal agir. Voilà. Donc la sagesse, on n'en a jamais une possession définitivement assurée, à la différence de la connaissance. Donc on est sage un jour. Et puis le lendemain, on peut se comporter comme un fou. Hein, et je pense qu'il y a aussi cette leçon dans le récit de la rencontre de la reine de Saba et de Salomon. Et la figure de la sagesse, bien sûr, elle traverse l'histoire. On la retrouve dans le monde chrétien, où le clerc, cette figure qui a occupé le monde occidental pendant des siècles, hein, en partie au Moyen-Âge, le clerc, c'est l'homme du sacré, mais c'est l'homme du sacré parce que c'est l'homme du savoir. Hein. C'est lui qui sait lire, qui a accès à tout le patrimoine culturel de l'Antiquité. Et aujourd'hui encore, pour parler des intellectuels, on n'hésite pas à parler des clercs. La trahison des clercs, la révolte des clercs. Voilà. Donc c'est quand même des figures qui nous habitent profondément. Donc Salomon, figure de la sagesse, d'une sagesse qui naît d'ailleurs de l'alliance entre Dieu et cet homme, et cette sagesse, elle est source d'interrogation. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la reine de Saba vient rendre visite à Salomon. Elle veut l'interroger sur cette sagesse. Elle-même est en quête de sagesse. Alors l'intérêt, c'est que elle vient questionner Salomon, mais il y a un petit changement entre le verset 1 et le verset 2. Hein, au verset 1, on nous explique qu'elle vient mettre Salomon à l'épreuve par des énigmes. Et au verset 2, on nous dit, verset 2b, hein, la fin du verset, « Elle vint trouver Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait sur le cœur. » Donc il y a une légère modification, hein, puisqu'on passe de l'énigme à une réalité différente qui est l'ouverture du cœur, hein, hexagoresis en grec, hein, ce mouvement par lequel, d'ailleurs, on parlait des pères du désert, hein, tout à l'heure, c'est le mouvement caractéristique du disciple qui vient auprès de son maître pour lui dire tout ce qui l'habite et pour obtenir du maître un conseil et une parole de sagesse. Donc là, le texte est en train de nous dire que d'emblée, d'emblée, la reine de Saba vient se mettre à l'école de Salomon, qui est présenté finalement implicitement comme un maître de sagesse. Et au verset 3, on nous explique que finalement Salomon répond à cette demande de la reine de Saba, puisqu'il lui explique tout ce qu'elle demande, et avec cette précision du texte, il n'y avait rien de caché que le roi ne pût lui expliquer. Et là, Salomon est campé dans la figure du révélateur. C'est celui qui révèle les secrets de la sagesse à celle qui vient les lui demander. Donc, Salomon, apparemment mis à l'épreuve, et en fait, il n'y a pas d'épreuve du tout, puisque il s'inscrit comme celui qui vient révéler à cette femme ce qu'elle cherche. Le résultat, d'ailleurs, c'est que, ayant entendu ce qu'elle a entendu, ayant vu ce qu'elle a vu, cette femme, nous dit-on, au verset 5, en a le souffle coupé. Voilà. Donc là, il y a un instant de suspension hein, dans le récit. Elle est sans voix. Hein. C'est-à-dire que le questionnement de cette femme est interrompu. Il y a comme un silence qui s'inscrit dans le texte. Comme si par là nous était suggéré qu'il y a dans la sagesse un au-delà de la parole, quelque chose qui est de l'ordre du non-discours, ou du silence, voilà, j'allais dire quelque chose d'apophatique, d'au-delà de ce qui peut être connu. Moi, je suis assez inscrit dans cette ligne d'une lecture du récit qui consisterait à dire voilà, que la sagesse est au-delà de la sagesse, que la parole authentique est au-delà de la parole, et qu'il y a une entrée, que la connaissance, elle passe par une entrée dans l'inconnaissance. Alors là, c'est une thématique qui a été très développée par beaucoup de mystiques, notamment à l'époque moderne, qui relisent ces textes en disant finalement la vraie sagesse est un au-delà de la sagesse, la véritable connaissance, en fait, c'est une totale ignorance, hein, et que la vraie révélation, elle est dans une absence de parole. Mais très rapidement, la reine de Saba retrouve elle revient à elle-même en quelque sorte, elle retrouve ses esprits, elle redescend sur terre en quelque sorte, hein, et elle prend la parole. Alors, est-ce que ce sont des paroles ou est-ce que ce sont des pensées? Bonne question.
Ouais.
Alors, je dirais assez volontiers, moi je prendrais plutôt le parti de dire que ce sont des paroles. Elle dit alors au roi. Hein. Voilà, il y a vraiment une expression, ce n'est pas une parole rentrée, enfin c'est quelque chose qui est proclamé, qui est dit publiquement, et je pense que, étant donné la nature du propos, je pense que c'est véritablement une expression à haute voix. D'abord, c'était donc vrai, voilà. Amen. Voilà. Hein? Il y a quelque chose de l'ordre de la confession de foi qui est en train de se mettre en place. Voilà. C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de tes paroles et de ta sagesse. Voilà. Elle va poursuivre en disant « Je n'y croyais pas avant d'être venue et de l'avoir vue de mes yeux, et l'on ne m'en avait pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que ta réputation ne me l'avait laissé entendre. » Donc là, je pense que le narrateur met en scène la rencontre, comme je disais précédemment, entre la sagesse des nations et la sagesse d'Israël. Et que là, à travers les paroles de la reine de Saba, on voit la sagesse des nations s'incliner devant la sagesse d'Israël. Mais le texte a aussi la sagesse de nous dire que cette confession, elle n'intervient qu'après un dialogue préliminaire. Voilà. Ces deux sagesses ont échangé. Et que cela est important, qu'il n'y a pas un abaissement de la sagesse des nations devant la sagesse d'Israël, mais qu'il y a véritablement un échange qui est le fruit d'un dialogue.
Je trouve qu'on peut avoir un autre rapprochement avec le texte. Ce que je savais, je l'ai vu, et ce texte qui a été tellement utilisé au début du christianisme pour dire « Enfin, le Christ est venu, et ce que nous savons de Dieu, nous l'avons vu, et donc nous devons le représenter. » Ce sont ces paroles qui sont à l'origine de tout l'art occidental, et qui ont justifié toutes les représentations d'Occident dans les discussions sur les images. Nous avons eu la chance de voir ce qu'on entendait depuis si longtemps. Et pour moi, c'est vraiment un peu le même mot qu'on trouve en français. Parce que c'est quand même curieux que je l'ai vu alors qu'il s'agit de paroles.
Alors,
à ce moment-là, parce que toutes les richesses, etc., la grande liste n'est pas ce que vous nous avez lu, arrive ensuite. Et dans ces textes-là, voilà, c'est...
Alors, c'est vrai qu'il y a une réception chrétienne de ces textes. C'est évident, ce que les yeux... Et bien sûr, la conscience chrétienne va relire ce récit à la lumière de ce que Jésus dira lui-même de la visite de la reine de Saba. Au roi Salomon. Il y a ici plus que la reine de Saba, quand Jésus parle de lui-même. Et que ce qui est vrai, c'est qu'il y a, je pense en effet, une dialectique de la vision, que c'est une interprétation chrétienne de ces textes. Il y a là comme... une dialectique d'annonce et une prévision de la figure de la sagesse qui viendra au terme de l'histoire, lorsque l'histoire est accomplie, avec la venue de Christ. Et que des gens entrevoient ce qui se donnera à voir en plénitude avec l'incarnation.
Alors,
Luc, je ne l'ai pas noté. Si quelqu'un le sait, est-ce que... Non, je ne l'ai pas noté, j'aurais dû.
À propos des musées, Luc 11:31.
Merci, 11:31. Alors, je disais confession de foi, puisque la reine de Saba va employer deux expressions. D'une part, une parole de bénédiction. Béni, au verset 9, béni soit le Seigneur, ton Dieu qui a pris plaisir en toi et t'a placé sur le trône d'Israël. Donc cette parole de bénédiction, elle est liée en effet au regard que la reine porte sur celui dont le nom avait provoqué sa visite. C'est bien le nom du Seigneur qui a entraîné, on nous le dit au verset 1, qui a entraîné, qui a, qui a provoqué ce voyage de la reine de Saba. Alors, bien sûr, le Seigneur, ce Dieu d'Israël, elle ne le voit pas, mais elle le devine, elle peut l'entrevoir, justement, à travers la sagesse manifestée dans l'enseignement de Salomon. Et puis, après avec cette parole de bénédiction, il y a une parole, une béatitude. C'est aussi, je pense, à noter, verset 8, « Heureux tes hommes, heureux tes gens qui se tiennent constamment à ton service et qui entendent ta sagesse. » Et il y a là, dans cette béatitude, un hommage indirect rendu à Salomon et rendu, bien évidemment, au Dieu de Salomon. Et puis, je relève aussi deux mots qui me semblent importants. Ce sont les deux derniers mots. Hein. C'est toujours intéressant de s'attacher aux ultimes paroles dans une déclaration. C'est au verset 9. La reine de Saba ajoute, après avoir béni l'Éternel, « Parce que le Seigneur aime Israël pour toujours, il t'a fait roi pour que tu agisses selon l'équité et la justice. » C'est-à-dire, alors là, il y a une sagesse de la reine de Saba qui rappelle à Salomon quelle est la mission qu'il a reçue. Voilà. Il est appelé à être un roi d'équité et de justice. Hein, ce qui est d'ailleurs ce qu'on attend de la figure royale. Et, bien sûr, c'est aussi un avertissement, parce que la suite du récit va nous dire que Salomon n'a peut-être pas finalement été ce roi d'équité et de justice qu'il était appelé à être, et qu'il, finalement, n'a pas été aussi sage qu'il l'aurait dû.
Ça rappelle l'avertissement de Nicarès-Maras. Mais ça concernait le peuple d'Israël.
Qui était ? Non, quel était l'avertissement ?
L'avertissement, c'était suivez mes commandements et le temple restera debout, et sinon il sera détruit. Et Israël sera détruit aussi.
Alors sans doute que l'avertissement lancé à la figure du roi, ici, c'est aussi un avertissement lancé à l'ensemble du peuple d'Israël, à respecter l'équité et la justice. Hein, y a une vocation d'Israël qui est bénie de Dieu, qui est comblée de bénédictions, qui reçoit des dons, hein, qui reçoit une sagesse, mais dont Dieu attend qu'il se comporte d'une manière particulière, hein, d'une manière équitable et juste. Je reviens un peu en effet sur cette dialectique du croire et du voir. Hein. Je pense que dans une perspective un peu de lecture diachronique depuis ce texte jusqu'au christianisme, il y a un travail du croire et du voir. Cette femme voit, et c'est parce qu'elle voit que finalement elle croit, même si en effet il y a un moment où elle entend, et que ce texte, il est dans un inachèvement, hein, mais que dans une perspective chrétienne, si on le lit à la lumière de la foi chrétienne, qu'elle est un jalon sur une piste de la découverte de la vérité, qu'on peut interpréter aussi comme un passage du voir au croire sur parole. En tout cas, comme vous le faisiez remarquer, voilà, il y a ce texte, il est en effet travaillé assez profondément par cette question. Qu'en est-il de l'audition et qu'en est-il du voir dans l'acte d'adhésion à Dieu? J'aurais conclu volontiers en disant aussi que on peut faire une lecture de ce récit de la rencontre entre la reine de Saba et le roi Salomon. On peut en faire une lecture initiatique. C'est un voyage, hein. C'est vraiment, il y a le déplacement de cette femme, et que c'est qu'un récit de voyage n'est jamais anodin, et que ce voyage initiatique, il se déroule selon des étapes que je vous propose. Voyage initiatique qui nécessite un départ, se mettre en route, partir. On ne sait pas d'où venait cette reine. La géographie nous échappe complètement, mais elle part, elle quitte un lieu. Elle vient pour vérifier. Il y a une enquête, une historia. Elle interroge, il y a un questionnement de la reine de Saba. Elle entend, elle écoute, elle recueille une parole, et puis dans ce voyage, dans cette initiation, elle cherche à voir, elle voit, et elle en est éblouie. Et puis, dernière étape de cette initiation, elle invoque, hein, puisque le terme de cette rencontre, ce n'est pas simplement le dialogue entre la reine de Saba et le roi Salomon, c'est l'invocation du Dieu d'Israël. Et je pense qu'on peut faire une lecture de foi de ce récit. Cette femme qui est en quête, son parcours initiatique s'épanouit dans une invocation d'un Dieu autre, hein, qui n'est pas à l'origine son Dieu. Et comme disait un commentateur qui a cherché à dégager cette structure initiatique, et ça sera un peu ma conclusion, elle est convoquée, mais finalement, elle invoque. Elle est convoquée, mais finalement, elle invoque. Voilà. Et c'est peut-être en cela que la reine de Saba, ben, elle aussi, voilà, est une figure de sagesse. Voilà vos réactions sur un peu sur toutes ces pistes ouvertes.
Un parcours initiatique est en général semé d'épreuves, et là, les épreuves, on les voit pas. On les voit pas beaucoup.
Alors les épreuves, ce sont les énigmes, hein, Machal. Alors c'est vrai que le récit est très synthétique. Je serais assez enclin à dire qu'il y a un rapport entre l'épreuve et la révélation. Un parcours initiatique, oui, c'est une quête, et que le texte nous dit aussi que, bien sûr, il y a une quête humaine qui se déroule, et qu'il y a une réponse, une parole de Dieu qui vient d'une manière autre qu'une réponse attendue à des questions posées par celui qui est en quête. Il y a très fort l'idée d'une révélation. Hein, voilà. Il n'y a rien de caché que le roi ne put lui expliquer. Peut-être que là, bien sûr que...
On a passé haut la main des épreuves, j'ai envie de dire. Le roi Salomon, il a passé haut la main des épreuves, j'ai envie de dire. Les épreuves, peut-être que la reine de Saba est en train de des petits pièges qu'il essaie de lui tendre, mais il les a tous évolués, en fait.
Peut-être tout simplement, le roi le roi Salomon, il est éclairé par l'Éternel. Moi, j'interpréterais assez volontiers ce texte comme une réflexion sur qu'en est-il de la part entre la quête humaine et l'action de Dieu dans cette question de la recherche de la vérité.
Peut-être que l'épreuve de la reine, c'est aussi d'avoir quitté son pays, de l'avoir laissé aux mains de gens de plus ou moins de confiance, d'avoir quitté la place où elle était la première pour se présenter à une place où elle ne sera plus la première.
Elle est intelligente.
Elle prendre ce risque.
C'est la question.
Oui.
C'est la plus intelligente.
Elle est au bénéfice de cette révélation. Elle est en quête, en effet. Elle a cette...
Elle a quitté une certaine sécurité, j'ai envie de dire.
Tout à fait.
Elle a traversé le désert, parce qu'elle vient avec des chameaux, elle vient du Yémen,
oui.
ça fait un parcours terrible.
Et
traverser le Ramat.
Oui, et d'autant plus qu'il est... J'ai trouvé ça dans le livre d'un bénédictin, Don Duesberg, qui a écrit un gros livre sur la sagesse d'Israël. Il dit c'est assez exceptionnel qu'un roi fasse un déplacement. Il y avait des diplomates, il y avait des courants commerciaux, il y avait des accords diplomatiques, mais qu'un roi en personne vienne se déplacer d'aussi loin, dans une telle expédition, avec de tels moyens logistiques, c'est qu'en effet, ça met en valeur l'intensité de son désir et sa fin d'avoir une réponse. Voilà, ce n'est pas simplement une passade, quoi. La reine de Saba est habitée par un désir extrêmement profond. C'est le reflet de la richesse et de la profondeur du désir de l'homme quand il est en quête de vérité.
Et Salomon le reconnaît très bien, parce que Salomon la reçoit. Alors c'est une femme, elle vient de loin, bon, c'est pas un roi.
Et Salomon est la figure de... celui qui est éclairé par Dieu.
Aussi.
Pardon.
Il paraît qu'elle était jolie aussi.
Oui.
La question, c'est que c'est pas une femme qui vient, c'est un roi. Toujours roi, c'est une femme, c'est un roi. C'est sur le plan diplomatique. Non, pas à l'époque. Non, je crois pas. On voit beaucoup de récits, il y a quand même pas mal de rêves dans la Chepsut. L'autre, bien avant, et quand la personne est le souverain, son rôle domine sa nature.
Je serais un médiéval, j'en ferais une lecture symbolique. Je dirais que c'est la mise en représentation de l'âme humaine en quête de la vérité et de la sagesse divine.
Hein. Oui,
et qu'il y a une beauté de l'âme humaine qui cherche. Mais que cette quête, elle s'accomplit d'une manière inattendue dans la rencontre avec cette figure masculine. Donc si j'étais un médiéval, j'y lirais le symbole du Christ, le Christ époux qui vient à la rencontre de l'âme épouse. C'est une grande lecture classique dans la patrologie et chez les auteurs, d'ailleurs plus globalement chez les auteurs mystiques.
Et si vous étiez longuin, vous verriez les deux aspects de la personne qui se rencontrent, l'aspect l'animal, la personne, l'aspect la plus dans le sentiment, qui se rencontrent et qui arrivent à être ensemble au lieu de s'opposer.
Oui, c'est une tout à fait une lecture.
Mais bon, je pense que c'est adapté au texte avec son histoire.
Oui, oui, mais il y a quand même des archétypes qui travaillent ces récits, hein, qu'on retrouve.
La reine sert à valoriser Salomon.
Pardon.
Il sert à valoriser Salomon.
Oui, 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 elle sert à valoriser Salomon.
Il y a bien d'ailleurs,
pour
se
soumettre.
Bien sûr.
Si on le remet dans le contexte.
C'est souvent pour les gens extrêmement étrangers.
Mais elle aussi, c'est une belle personne.
Oui.
Voilà.
Mais c'est pas rien. C'est pas reconnaître.
Ouais. Donc voilà, une reconnaissance. Une reconnaissance, une de plus. Et la semaine prochaine, je ne vous parlerai pas d'une visite, mais d'un projet de visite, puisque dans l'Épître aux Romains, Paul écrit aux Romains qu'il veut leur rendre visite. Mais on ne sait pas s'il leur a rendu visite.